Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heure passée de quelques minutes, vous écoutez Radion et vous avez bien raison, nous retrouvons comme chaque samedi à pareille heure sur votre radio locale. C'est donc Wagon Livre, votre émission littéraire, et aujourd'hui nous retrouvons l'invité que nous avons accueilli la semaine passée, capitaine Hervé Moreau. Un grand bonjour à vous, merci d'être une fois de plus avec nous.
Heureux de vous retrouver Yannick, merci à vous de
me recevoir. Je rappelle mon capitaine que vous avez fait paraître il y a 6 mois maintenant un livre témoignage intitulé « Vérité d'un capitaine de gendarmerie ». Un officier d'active rompt le devoir de réserve. Alors, c'est un livre, effectivement, témoignage sur le quotidien des gendarmes. C'est aussi un plaidoyer pour une France plus sûre, où la loi serait enfin respectée, où les citoyens pourraient vivre en paix et où, surtout, ceux qui font du mal et se comportent mal seraient punis, voire incarcérés. Oui. C'est un livre qui vous a valu un blâme de la ministre des Armées. Je rappelle, mon capitaine, rapidement, je rappelle que cette fois-ci, vous êtes en retraite désormais. Oui. Et vous êtes...
Non, je ne le serai que le 24 mai.
Ah, 24 mai. Belle émission. D'accord.
Dans 3 jours.
Vous avez été commandant en second de la brigade de Beaune.
De la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune.
De la compagnie de gendarmerie de Beaune, c'est cela ?
Oui.
De 2015 à 2019. Et vous terminez votre carrière en étant officier de liaison gendarmerie. Et je rappelle que vous avez bientôt 52 ans.
Et oui.
Voilà. Donc, vérité.
Merci,
d'un capitaine de gendarmerie. Alors, mon capitaine, il faut absolument, parce qu'on ne peut pas éviter ce sujet qui est au cœur de votre livre témoignage, c'est de parler de la justice. Alors, on en parle bien sûr... presque chaque jour actuellement dans les médias au regard de ce qui se passe. Vous parlez de laxisme éhonté des magistrats. Vous parlez aussi de l'insuffisance chronique des places de prison en France. Actuellement, il y a 70 000 personnes incarcérées.
Oui.
Il y a 188 établissements pénitentiaires en France. Et vous dites qu'il manque une trentaine de Fleury-Mérogis. Alors, mon capitaine, pourquoi la justice ne condamne-t-elle pas ?
La justice ne condamne pas de fait de l'idéologie des magistrats qui sont toujours dans la recherche de circonstances atténuantes pour ceux qui nous font du mal. Et elle ne fonctionne pas parce que ces places de prison n'ont jamais été construites et c'est un drame, le drame absolu que nous vivons depuis des décennies. Moi, je considère qu'effectivement, il nous manque une trentaine de Fleury-Mérogis, une centaine de milliers de places de prison. Si nous voulions vraiment évoluer dans un pays où la société serait protégée, la société que nous voulons de ceux qui nous font tant de mal et avec une telle récurrence, c'est pas compliqué, il faut qu'ils soient incarcérés pour cesser d'être nuisibles. Parce que ce sont des gens qui ne cessent jamais. Parce que les atteintes aux biens sont très rémunératrices, parce que les atteintes aux personnes sont trop nombreuses, trop violentes, trop récurrentes, parce que ceux qui font ce mal le font avec une fréquence trop élevée, on doit les empêcher de nuire. Et pour les empêcher de nuire, c'est pas compliqué, il faut 2 leviers. Le premier, c'est l'éducation, c'est une chose absolument essentielle. Il faudra toujours éduquer, encore et encore, instruire, socialiser, former, et il faut par ailleurs, et je me dois de le dire, réprimer. Et réprimer lorsque les faits sont graves, d'une dimension délictuelle ou bien sûr criminelle. Il y a trop de faits délictuels et criminels dans notre pays pour que nous laissions continuer d'exercer leur action si nuisible. Ceux qui en sont à l'origine, il faut incarcérer. Et les magistrats ne le font pas. C'est une véritable catastrophe à mon sens.
Les magistrats ne le font pas parce qu'ils savent aussi qu'on ne peut pas mettre 6 prisonniers dans une cellule.
Oui, certainement. Mais ça, ce n'est pas leur problème, Yannick. Les magistrats doivent condamner lorsque les faits le justifient. C'est tout. Qu'il y ait des places de prison ou qu'il n'y en ait pas, que l'administration pénitentiaire soit suffisamment dimensionnée ou pas, dans l'absolu, ça n'est pas leur problème. Et ça n'a pas à l'être. Nous, ce que nous voulons, c'est une société qui soit protégée. protégée.
Ah, et elle ne l'est nous, pas. Quand vous dites
nous, les citoyens, le peuple de France.
Alors, vous pouvez penser que tout le monde ne partage pas vos points de vue.
Ah ben certes, mais lorsqu'ils seront devenus victimes, on en reparlera à ce moment-là. Vous pouvez très bien avoir une vision angéliste des choses, avoir une vision très déconnectée des réalités du terrain, mais lorsque vous vous serez fait agresser, lorsque vous vous serez fait détrousser, harceler, là on en reparle, Yannick, moi j'en ai vu, hein, effectivement. Je suis au plus près du genre humain. Nous, gendarmes et policiers, nous sommes au plus près du genre humain. Donc l'angélisme cesse lorsque vous prenez des coups, lorsqu'on exerce un racket, un chantage, une agression à votre encontre. Lorsque vous devenez une victime, tout change. Et lorsque vous prenez la mesure du laxisme de la justice, son incurie, ses juges incapables, qui ne répondent pas aux besoins de la société, qui ne la protègent pas, eh bien vous en êtes outré. Quand vous êtes en charge du cheminement judiciaire, qu'il s'agisse d'un procès d'assises ou en correctionnel, voilà, vous ne pouvez qu'être effaré lorsque vous êtes victime du sentiment d'abandon que vous ressentez. On s'occupe davantage des coupables que des victimes dans ce pays. Et ça, c'est insupportable et c'est intolérable et ça doit changer. Moi, ce que je veux, c'est une société qui soit sûre. On se gosse parfois de la société nord-américaine, mais c'est une société très protégée. Lorsque vous évoluez le soir, lorsqu'une femme évolue le soir dans les rues de Los Angeles, de New York ou de Dallas, elle a le sentiment d'être à peu près en sécurité, même si tout peut arriver. À Lille, Lyon, Rennes ou Paris, Auxerre, le sentiment est moins celui-là. Ça, c'est une véritable réalité. Et ça, c'est intolérable. C'est intolérable. On laisse prospérer des hommes de non-droit, on laisse prospérer la violence, loi du plus fort, et moi, je m'insurge contre cela. Et je veux une France différente pour nos enfants. Une France pacifiée, équilibrée, où il n'y ait pas ce communautarisme galopant, où il n'y aurait pas toutes ces formes de prosélytisme, cette violence, cette loi du plus fort. Moi, c'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive et c'est ce que je veux pour les générations qui vont nous suivre. Moi, ma vertu, ma foi, mon courage, je le trouve dans l'espoir que je mets en les générations futures, en le pays que nous allons leur transmettre. Moi, c'est tout ce qui me motive.
Mon capitaine, Vous semblez regretter le Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur, Sarkozy...
Qui voulait des résultats.
Voilà, a été un grand ministre, parce qu'effectivement, c'était un homme de résultats, c'est un homme efficace. Alors certes, on peut lui reprocher d'avoir supprimé la police de proximité, c'était une erreur, il n'a pas eu que tout le temps raison, mais c'était un homme orienté dans la culture du résultat. Pour moi, ça a été notre plus grand ministre de l'Intérieur. Lorsque j'étais en gendarmerie mobile, voilà, tous les commandants de groupements de gendarmerie qui ignoraient ce qu'était la culture des résultats, et ils ne sont pas entrepreneurs, ils n'ont pas le goût du risque, ils ne risquent pas leurs emplois. Lorsqu'ils prennent une mauvaise décision, ils ne risquent pas le dépôt de bilan, à différence de tous les entrepreneurs privés de ce pays. Ils ont une culture, d'une certaine manière, de l'irresponsabilité. Donc, ils avaient remis sur les rails du résultat. Et les résultats, les choses nécessaires, pas forcément quantitativement, mais on doit être toujours orienté vers les besoins du peuple que l'on sert. Et les besoins du peuple, c'est que ceux qui leur font du mal soient empêchés de nuire. Et ça, vous pouvez faire preuve du plus grand volontarisme lorsque vous appartenez aux forces de l'ordre, si le pouvoir politique ne suit pas, si ces places de prison ne sont pas construites, si ces magistrats n'incarcèrent pas, c'est sans fin, c'est sans espoir.
Mon capitaine, pensez-vous qu'en 2022, année d'élection présidentielle, ce sera la justice, l'insécurité, seront des thèmes centraux pour les candidats ou est-ce qu'il faudra aborder d'autres choses ?
Moi, je crois
qu'on
ne
peut pas tout remettre à plat comme ça du jour
au
lendemain.
Au regard du coût de la gestion du Covid-19, je pense que ce sera un naufrage économique et financier extrêmement dramatique. Je pense que des millions d'entrepreneurs vont être confrontés avec la cessation des aides de l'État à des situations extrêmement préoccupantes. Ça a déjà commencé. Donc moi, c'est à eux que je pense également et surtout. Et je pense qu'effectivement, ça, ce sera le grand thème parce qu'il s'agit de vivre, de survivre. Il s'agit d'essayer de développer. Moi, ce qui m'a toujours heurté dans ce pays, c'est que, je l'avais dit dans l'émission précédente, l'administration se doit d'aider, de seconder, d'épauler au maximum les entrepreneurs de ce pays, ceux qui prennent des risques, pour ceux qui emploient, ceux qui développent. Ils ont beaucoup de boulets au pied.
Oui, donc, ce que vous écrivez, c'est que l'État est devenu un empêcheur.
L'État est devenu un empêcheur, c'est un catastrophique. Moi, je veux bien la politique sociale la plus noble et la plus généreuse, mais qui la paye ? Qui la paye ? Et c'est quand même les patrons de ce pays, les entrepreneurs, qui la financent et qui la supportent. Elle est beaucoup moins développée dans d'autres pays d'Europe, et bien entendu dans le reste du monde. Mais c'est vrai que voilà, moi je m'insurge aussi contre un social qui est devenu excessif dans notre pays contre cette politique de l'assistanat dont on crève.
Alors, on va en parler tout à l'heure. Bon, par exemple, on va en parler. Ça, c'est un aspect aussi que vous soulevez très largement dans votre livre. Concernant la jeunesse, vous dites qu'on est toujours sur l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Ça a évolué très dernièrement avec le code de justice des
mineurs. Est-ce que vous pensez qu'il faut être beaucoup plus ferme à l'égard de notre jeunesse?
Incontestablement.
Et est-ce que ça doit commencer à l'école?
Oui, incontestablement. On doit retrouver le goût
même à l'école.
On doit retrouver le goût de l'autorité, Yannick. On doit retrouver l'autorité, je crois, dans les cellules familiales. On doit retrouver l'autorité au sein du corps professoral. Alors, je ne veux pas évoquer les générations d'après mai 68. On est passé d'une société qui était extrêmement figée et patriarcale dans les années 70 à une société du tout autorisée, une société extrêmement permissive, de remise en cause de toutes les autorités. Moi, j'ai connu, lorsque j'étais jeune lieutenant, les conscrits encore dans un régiment qui était composé d'appelés pour le tout début de ma carrière. Donc voilà, c'est son...
Mais vous savez aussi que les parents contestent les sanctions que des enseignants infligent à des élèves.
Les parents aujourd'hui sont confrontés à la violence de toutes sortes, sont confrontés aux excès de toutes sortes. J'ai eu à intervenir, moi, dans des préaux. Moi, capitaine de gendarmerie, j'ai eu à intervenir sur des faits de harcèlement, sur cette violence juvénile. Vous vous souvenez de cette jeune femme de 15 ans, lynchée et projetée dans la Seine, noyée par ces deux jeunes corréligionnaires, âgés de 15 ans également, qui n'ont exprimé aucun regret, aucun repentir, qui n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Alors, c'était un symbole, bien entendu, mais c'est quand même à ça auquel on est confronté aujourd'hui. Moi, la jeunesse est de plus en plus, je trouve, précocement violente, parce qu'elle bénéficie de l'excuse de minorité, devant les tribunaux français.
Et elle ne devrait pas.
Elle, en avis, non, elle ne devrait pas. La majorité sexuelle dans ce pays est de 15 années. Je pense très sincèrement qu'on devrait ramener la majorité pénale à 15 ans. C'est une dimension dissuasive qui serait très très importante. La vertu de la dissuasion, c'est que ça vous empêche d'agir. Si vous avez le sentiment d'être intouchable, si vous avez une culture de l'impunité, vous réitérez les faits encore et encore. Ici, dans ce pays, quelques milliers d'individus pourrissent la vie de millions de personnes. Parmi tous les délinquants auxquels j'ai pu avoir affaire, combien de multirécidivistes? Tellement. Et si peu d'incarcération, si peu de jours de prison. Pourquoi voulez-vous qu'ils cessent s'il ne leur arrive jamais rien? Les magistrats se prévalent de la réponse pénale, mais la réponse pénale dans ce pays est totalement insignifiante. Des rappels à la loi dont tout le monde se fout, des peines de prison avec sursis, des contrôles judiciaires qu'ils ne respectent pas, des dispositions de travaux d'intérêt général dont ils se fichent éperdument. C'est une culture de l'inaction. Les rappels à la loi, bien entendu, c'est totalement foireux, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Il faut avoir la naïveté d'un magistrat pour croire qu'on va obtenir des résultats avec cela. On n'en obtient aucun. Ça entretient la violence, la du plus fort, l'impunité et la récurrence de ces actes qui vous pourrissent l'existence.
On va marquer une première pause musicale à bord de notre wagon livre, mon capitaine. Je rappelle que c'est le capitaine Hervé Moreau qui signe un livre qui se vend comme des petits pains et
oui.
Peut-être que le boom va continuer.
Oui.
Le livre a pour titre « Vérité d'un capitaine de gendarmerie ».
La vérité est bonne à dire.
Un officier, même si elle fâche. Hein,
oui, même si elle fâche, surtout si elle fâche.
Un officier d'active rompt le devoir de réserve. Je rappelle que notre invité a reçu un blâme.
Oui.
C'est pas beau, hein, je répète, hein. Je moucharde. Il a reçu un blâme de la ministre des Armées. Pour avoir osé écrire ce livre que vous n'auriez pas dû écrire.
Bah sans doute, mais moi je suis fier de l'avoir écrit et tous mes lecteurs me disent à quel point ils ont été traversés de toutes les émotions à sa lecture. Vous savez, lorsqu'un homme vous écrit qu'il a été bouleversé par cet ouvrage, qu'il en a pleuré, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Moi quand j'ai écrit ce livre, comme tout auteur, j'avais le sentiment de vouloir faire susciter des émotions à sa lecture, de vouloir les faire entrer dans mon univers, dans cet univers fait de joie, de souffrance, de peine, de réalité que l'on méconnaît beaucoup. Je suis le premier officier à avoir écrit un ouvrage de ce type. Ça n'avait jamais été écrit avant moi, curieusement, au plus près du terrain, au plus près des souffrances humaines, au plus près aussi de tout ce qui est espoir, parce que nous vivons dans une région merveilleuse, parce que les Bourguignons sont des gens exceptionnels. J'ai connu beaucoup de régions dans ma vie, j'ai traversé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de missions à l'étranger, mais moi, ma terre, je l'ai trouvée en Bourgogne. C'est une terre absolument admirable, faite de gens courageux, travailleurs, volontaires, et c'est une terre, c'est un vouloir vivre que je veux préserver absolument et j'y ai concouru.
On se retrouve avec vous dans une poignée de minutes. Vérité d'un capitaine de gendarmerie, c'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
It's too good to be true. You
blame on. Once again now, I'm sorry to show you the truth, but I just gotta say that I love you.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes toujours avec notre invité, le capitaine Hervé Moreau, pour son livre témoignage. Un livre charge un peu sulfureux, sans doute, pour certaines personnes qui sont mises en cause d'une certaine manière dans cet ouvrage. Vérité d'un capitaine de gendarmerie, un officier d'active rompt le devoir de réserve. Juste avant la pause musicale, mon capitaine, nous parlions de la jeunesse, nous parlions de comportements perturbateurs, agressifs, violents, très jeunes, hein, ça existe, malheureusement. Vous dites une certaine précocité de la violence dans la jeunesse. Être parent, c'est pas facile, mais il faut peut-être assumer aussi ses missions de parent.
C'est devoir de parent, incontestablement. Éduquer demande de l'énergie, de l'effort. Éduquer demande de l'engagement. Mais c'est une mission, c'est un devoir extrêmement noble, et on a le devoir d'ouvrir nos descendances au monde, de leur donner confiance en eux, de leur donner tout l'amour qu'il est possible et de les rendre ainsi, je crois, forts. Moi, j'ai toujours beaucoup espéré en la jeunesse de France, et j'ai considéré qu'on l'avait toujours et depuis très longtemps maltraité. Alors, dans les périodes que l'on traverse, bien entendu, de manière encore, avec une acuité encore plus élevée, mais on doit faire confiance à la jeunesse. Moi, la jeunesse, je l'ai côtoyée, au travers de mes propres fils, bien sûr, mais au travers des jeunes gendarmes agents volontaires que l'on avait à la compagnie. Et c'est une jeunesse de qualité, pour peu qu'on lui explique les choses, pour peu qu'on la motive, pour peu qu'on lui explique les codes quand ils ne les connaissent pas, pour peu qu'on les éduque. Le rôle social de l'officier, c'est d'éduquer, comme le disait Lyoté, là encore. Je reviens dessus, c'est absolument essentiel. Il faut faire confiance à la jeunesse, il faut la motiver, on la motive par l'exemplarité. La jeunesse trouve à s'épanouir dans un cadre. Et ce cadre est nécessaire, l'autorité est nécessaire. Un arbre, quel qu'il soit, pour pousser droit, a besoin effectivement d'un tuteur, a besoin de s'épanouir le plus possible. Et c'est ce rôle-là que l'on retrouve au sein des forces armées, au sein de la cellule familiale, au sein d'entreprises et en bien des dimensions. Cette jeunesse est une jeunesse capable. Moi, je crois en elle. Encore faut-il lui faire confiance, encore faut-il lui donner toutes les chances et encore faut-il l'éduquer le mieux possible.
Alors, parlons des familles. Vous écrivez, vous parlez de familles démissionnaires et qui s'en fichent du moment que les allocations rentrent. Voilà pour partie la France d'aujourd'hui.
Oui.
Vous parlez de la prime à la rentrée scolaire. Très intéressant. C'est page 132.
Oui.
Qu'on la supprime ou qu'elle ne soit strictement utilisable que dans le seul intérêt des enfants.
Oui.
Et un peu plus loin, traduction. Pas d'alcool et pas de multimédia. C'est-à-dire que vous considérez que les parents...
Certains, oui,
certains,
bien sûr.
Sans doute.
Oui, bien sûr, certains. Alors, tout est à faire
alors,
en suite de proportion.
Alors, comment faire ? Il faut fournir des factures, justifier de l'argent.
Eh bien, le cas échéant,
donner aux familles.
C'est comme les équipements gendarmerie nationale que l'on. Je fais ce parallèle et cette comparaison-là. L'armée française, la gendarmerie nationale, nous donne une prime que l'on ne peut utiliser que pour acheter des équipements gendarmerie. Pendant longtemps, c'était une prime qui était versée sur votre solde, qui s'y ajoutait et vous en faisiez ce que vous voulez. Depuis longtemps maintenant, elle ne peut servir qu'à utiliser des équipements disponibles sur un site qui vous sont livrés en brigade de gendarmerie. Et c'est très bien ainsi. Moi, j'estime que dans ce pays, il y a de toute façon trop d'assistanat. On ne devrait pas pouvoir vivre en France sans travailler. Et aujourd'hui, on le peut.
Alors, l'emploi n'est pas quand même toujours spécifiquement au rendez-vous.
Non, bien sûr, mais il y a les entrepreneurs de France vous le diront, il y a kyrielles d'emplois qui ne sont pas honorés. Alors bien entendu, quelquefois les employeurs payent mal, traitent mal, considèrent mal, mais quand même, c'est de l'emploi, c'est du travail. Aux États-Unis d'Amérique, que je connais bien, ou en Grande-Bretagne, enfin les allocations au chômage ne sont pas celles que l'on connaît. Bien entendu, le RSA n'existe pas. Alors nous, au sein de la gendarmerie nationale, comme les magistrats, nous savons ce qu'il en est des fraudes, bien sûr. Des abus de toutes sortes, ces réglementations qui sont d'une complexité n'empêchent rien. Ayez-le bien en tête. Moi, je considère qu'effectivement, cette prime de rentrée scolaire, elles sont nécessaires, vous dira-t-on, pour bien des familles et pour bien d'autres, bien entendu, qui n'ont que peu de considération pour leur descendance. Elle est dévoyée et elle sert à bien autre chose que d'acheter des fournitures. Oui, bien sûr. Maintenant, moi, je suis dans ce devoir de vérité à tout niveau. Je l'ai constaté en unité quand on examine la situation financière des victimes et on est amené à les étudier par rapport aux préjudices ou celles des coupes. Plus encore, on est quelquefois sidéré par les revenus qui peuvent être les leurs, alors qu'ils sont sans emploi et sans activité.
Trafic de drogue aussi un petit peu.
Trafic de drogue, bien entendu, ça rapporte énormément et bénéficie d'une grande forme d'impunité. Cela est absolument scandaleux et dramatique. Vous avez à peu près une trentaine de milliers de dealers qui sont condamnés en France et souvent pour des peines, là encore, insignifiantes. Ce sont des marchands de mort. Moi, le combat contre la lutte contre la drogue, c'est un des grands combats aussi, avec celui pour les femmes. Nous devons absolument de protéger celles qui portent et mettent au monde nos enfants et nous ne le faisons pas assez. C'est absolument dramatique à mon sens et j'ai côtoyé à trop de cas. Je l'ai évoqué dans l'émission précédente, mais oui, les vendeurs de morts, les vendeurs de drogue, on doit leur déclarer une guerre absolue.
En vous lisant, mon capitaine, j'ai appris que finalement, il y avait pas mal de pères de famille qui dealaient de la drogue
pour avoir plus d'argent.
Vous voyez, finalement, on parlait de salaire. Si le salaire est insuffisant... être tenté aussi à mal agir finalement.
Oui, bien entendu, et ils risquent finalement si peu, donc c'est la raison pour laquelle cela ne les arrête pas. Ça nous pose une grande difficulté de santé publique, et lorsque vous allez annoncer à des parents, à des mères, à des pères à 6h du matin que leur enfant est mort parce qu'il était cocaïné et que ça s'est agrégé avec une trop grande vitesse, une somnolence et puis de l'alcool.
C'est absolument
dramatique. Et la faute en incombe à ceux qui leur ont vendu les stupéfiants également et qui, eux, ne se retrouvent que trop rarement dans le box des accusés. Moi, je considère que le problème de stupéfiants en France est un problème absolument dramatique et on ne doit, on ne pourra le solutionner, enfin on a tout essayé depuis des décennies, on n'y arrive pas, on ne pourra le solutionner qu'en ayant une posture qui soit absolue en la matière, c'est-à-dire que si le risque est à ce point élevé, les trafiquants renonceront.
Pas de légalisation du cannabis.
Jamais, jamais.
Pourtant,
jamais.
On en parle.
Et c'est de l'irresponsabilité totale. Nous aurions un peuple de drogués. Ce serait une catastrophe. Il n'y a pas. Ce serait de l'excès en permanence. L'État deviendrait dealer. Ce serait une société qui sombrerait encore davantage dans le chaos, à mon sens. Ce serait catastrophique.
Mais il y a pourtant des addictions qui sont légales. L'alcool, c'est en vente libre. Et
oui,
pourtant,
tout à fait.
Ça fait beaucoup de dégâts. Alors, santé, accident de la route, violence routière.
Aujourd'hui, infiniment moins. Aujourd'hui, infiniment moins. Ce sont les stupéfiants que l'on dépiste quasi systématiquement. Ouais. L'alcool, beaucoup moins. Les gens ont aujourd'hui cette conscience du risque. Ils conduisent finalement assez peu en état alcoolisé. Par contre, les stupéfiants, c'est absolument endémique et c'est dramatique. Et ça induit les mêmes effets en termes accidentogènes. C'est catastrophique.
Je voudrais dire, mon capitaine, aussi des passages très émouvants, témoignages dans votre livre, justement,
oui.
Puisqu'on parle d'accidents de la route liés à des conducteurs. Alors, en plus, ce jeune homme avait déjà été condamné, je crois,
pour
consommation.
Oui, oui.
Et là, il a tué une jeune femme.
Oui.
Vous arrivez sur le lieu de l'accident.
Oui.
Vous voyez au sol une silhouette recouverte d'un drap blanc. Vous soulevez le drap et là, vous découvrez une magnifique jeune fille de 20 ans qui est morte. Et c'est vous qui allez annoncer la mort de cette jeune fille à ses parents très tôt le matin, quoi.
Oui.
Et là, le capitaine Hervé Moreau a la larme à l'œil. Et, enfin, moi, je voudrais dire que, en tant que lecteur de votre livre, le courage, la force de caractère et morale qu'il faut à aller annoncer la mort d'un enfant à des parents,
c'est
terrible.
C'est absolument terrible. Ça m'est arrivé trop, hélas, bien entendu. Je raconte dans le livre, voilà, tout ce qui fait le quotidien d'un capitaine de gendarmerie, mais voilà, quelquefois, voilà, vous avez beau être dur, implacable contre ceux qui nous font du mal, quelquefois, ben vous craquez, bien sûr.
Oui. Parce vous avez la larme à l'œil parfois.
Mais pas seulement la larme à l'œil, ben vous en pleurez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous en pleurez parce que vous êtes ému, parce que vous portez le deuil de la personne que vous avez découvert sur le bord d'une route, vous portez la souffrance de ses parents, vous ne pouvez pas vous en départir voilà, en quelques secondes, en quelques minutes, en tout cas moi c'est pas ce qui m'anime et ce sont des moments extrêmement difficiles où vous allez annoncer l'insoutenable, où le monde s'écroule, où tout un univers s'écroule et c'est absolument tragique et dramatique et tant de souffrance. C'est aussi notre quotidien et on est bienveillant, on est empathique, on est aimant de ceux qu'on protège. Et puis contre la mort, ben vous ne pouvez rien, hélas. Et quand vous êtes d'un total volontarisme, comme je le suis, d'un total espoir en ce que nous pouvons faire, voilà, vous êtes quelquefois découragé quand vous voyez les ravages que provoque la consommation de stupéfiants. Enfin, c'est catastrophique. Ce sont des familles qui sont endeuillées. C'est dramatique. Et je crois que je le raconte, voilà, avec émotion dans le livre.
Je le confirme. Je le confirme.
Mais il y a tellement de cas dans le livre où l'émotion est présente, que ce soit notamment les tentatives de meurtre, que ce soit les viols, que ce soit les agressions,
les suicides aussi,
bien entendu, nous en faisons énormément. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'espoir, voilà, il y a beaucoup de peine. Et ça, c'est le quotidien d'un officier de gendarmerie, d'un gendarme, c'est d'être confronté à cette souffrance, à cette peine. Et c'est de là qu'il tire sa crédibilité, parce qu'on connaît le genre humain, on vit au plus près du genre humain, et on sait ce qui est nécessaire à notre société. C'est quelque chose de fondamental, ça. On sait ce qui est nécessaire à notre société parce que nous sommes des gens de terrain. Et nos grands politiques, nos grands gouvernants devraient davantage nous écouter.
On marque une pause musicale et on vous retrouve d'ici quelques minutes. Je rappelle, c'est le capitaine Hervé Moreau qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radion pour nous présenter son riche ouvrage, témoignage et plaidoyer, Vérité d'un capitaine de gendarmerie. On se retrouve dans une poignée de minutes, toujours à bord de Wagon Libre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
You might not want to lose your power. But heaven is so straight. She said you were here, oh, you played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hard, and you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes. But now she's got to get to class. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out? If you could take it all back, would you? Try not to abuse your power. I know.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Toujours sur Radion avec notre invité dans votre émission littéraire, c'est le capitaine Hervé Moreau qui nous accompagne jusqu'à midi. Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Mon capitaine, les sujets sont nombreux dans votre livre. Bien évidemment, je renvoie chacune et chacun à l'ouvrage. Je les encourage de se le procurer dans les points de vente et en passant par votre site marchand.
Librairieducapitaine.com.
Librairieducapitaine.com. Voilà,
exactement.
C'est
tout
dit,
attaché.
Et puis, je rappelle que cette émission sera disponible en podcast et qu'il y aura également possibilité de vous voir, puisqu'il y aura un reportage filmé sur le site de Radion. Témoignage aussi, vous intervenez un jour dans un centre pour migrants à Pouilly-en-Aussois. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, ils occupent les anciens locaux d'une ancienne caserne de gendarmerie.
Oui, exactement.
Et là, on vous appelle parce qu'il y a un jeune homme de 30 ans, d'origine soudanaise, qui veut se jeter dans le vide. Il a des troubles psychiques. Oui. Et vous allez monter sur le toit alors qu'il a les pieds presque... Il est assis sur le parapet dans le vide, il est prêt à commettre l'irréparable. Vous allez lui parler en anglais, en arabe, parce que vous parlez aussi un petit peu l'arabe.
Oui, je l'apprends ainsi.
Et vous écrivez. Alors, vous lui sauvez la vie. Enfin, vous lui sauvez la vie puisque vous réussissez
à avoir sa confiance. Oui.
Exactement. Et vous écrivez « Je demeurais animé d'un sentiment ambivalent. J'étais persuadé que notre nation ne pouvait plus accueillir ces vagues migratoires successives. Et pourtant, je l'avais protégé, lui aussi, comme tous les autres, sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'était mon devoir et j'obéissais par cœur et par raison à l'article 1er de notre Constitution. Oui, alors, cette vague migratoire, mon capitaine.
Eh bien, elle nous pose des problèmes d'intégration, d'assimilation, comme on le dit aujourd'hui, d'identité. C'est un problème qui est sans solution, semble-t-il, dans la mesure où les expulsions ne sont pratiquement plus possibles. Nous avons un droit qui est, à mon sens, surprotecteur des intérêts de ces personnes en situation régulière ou irrégulière sur notre territoire. Nous sommes confrontés à toutes sortes de difficultés en France. Nous avons des problèmes d'emploi, des problèmes de couverture sociale et nous ne pouvons plus assumer, bien entendu, appauvris que nous sommes, ces présences étrangères sur notre sol. Mais bien sûr, nous comprenons leurs motivations. Ce sont essentiellement des demandes d'asile motivées par des raisons économiques, parce que leurs existences dans leur pays d'origine sont infiniment plus compliquées, parce qu'ils ne disposent pas de toutes les couvertures, tous les avantages sociaux que l'on trouve en France. Donc voilà, il y a déjà rarement une demande d'asile parce que persécuté, parce que état de guerre, tout ça c'est de l'enfumage à mon sens. Voilà, ce qui les motive, c'est effectivement avoir une vie meilleure, et ils la trouvent en France ou en d'autres pays d'Europe. Mais ceci dit, voilà, ce sont des gens qui sont sans éducation pour certains d'entre eux, qui sont sans une culture différente des nôtres, qui viennent de pays de la Corne d'Afrique avec une religion autre que la nôtre. Moi, si ça ne me passe pas de difficultés particulières, mais ça exacerbe les tensions et difficultés que l'on peut avoir sur notre sol.
Alors, concernant l'obtention de la nationalité française,
oui.
Je vous cite, mon capitaine, vous l'écrivez page 110, « La nationalité française devrait se mériter et les conditions pour l'obtenir gagneraient à être considérablement durcies, et notamment en justifiant d'une connaissance approfondie de son histoire, de ses grandes figures, de ses valeurs, des devoirs incombant à chacun. »
Exactement, et ce n'est pas fait. Aujourd'hui, la nationalité française se donne, et sans contrepartie. On a des droits et on n'a pas de devoirs. Donc ça nuit considérablement à leur intégration à notre République, à notre France. Ils conservent leur personnalité, leur culture, leur vision des choses, quelquefois rétrograde, très souvent méprisante de la femme. Je reviens toujours à la femme parce que je considère qu'elle sera toujours l'avenir de l'homme. Et ça nous pose des difficultés certaines parce qu'ils rejettent notre identité, ils rejettent notre modèle de société, ils ne veulent pas se départir de l'autre. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à bien des formes de communautarisme, à bien des territoires perdus dans notre propre République, parce que nous avons reculé, parce que nous avons manqué de courage, parce que nous avons laissé se développer le prosélytisme. Moi, j'ai bien des amis musulmans modérés. Moi, je suis d'une conviction religieuse très, très forte, mais je n'emmerde personne avec ma foi. Je prie chez moi, je ne porte pas de croix, je n'insupporte personne avec ma foi. Par contre, effectivement, je suis insupporté quand je vois le port d'un voile islamique, quand je vois le port d'une kippa. Voilà, moi, je considère que sur la voie publique, on devrait se tenir à la laïcité la plus stricte. Et aujourd'hui, le communautarisme sous toutes ses formes se répand. Je pense que nous avons progressé vers les Lumières pendant des siècles. Ce n'est pas pour revenir vers une forme d'obscurantisme religieux. C'est insupportable.
Alors j'aimerais, mon capitaine, parce que je sais qu'il est dans votre cœur et votre âme, puisqu'on parle d'islamisme, et quand on parle d'islamisme, on parle aussi d'attentats terroristes sur le sol de France.
Oui.
C'est que j'aimerais que vous nous parliez du colonel Arnaud Beltrame. Un héros.
Ah oui, incontestablement.
Mort en mars 2018.
Oui, mars 2018 pour le colonel Arnaud Beltrame, et ça nous a tous immensément touchés. Un homme qui est allé, qui a fait le sacrifice de son existence pour l'autre, de sa vie pour l'autre, la quintessence de l'officier dans sa dimension la plus merveilleuse. Alors tous les officiers de France, tous les sous-officiers de France, tous les militaires de France se sont posés ce jour-là, et moi aussi, la question au matin, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous eu ce courage? Aurions-nous été prêts à sacrifier notre vie pour l'autre? Après, le colonel Beltrame voulait survivre, bien sûr, s'est donné toutes les chances d'essayer de survivre. C'est un homme d'action, un homme de terrain, un homme de volonté, qui avait la foi chevillée au corps. Et lorsqu'il est entré dans ce supermarché, lorsqu'il a pris la place de l'otage, il a toujours cherché à s'en sortir, bien sûr. Il a identifié une fenêtre à un moment donné, a essayé, mais n'a pas réussi à maîtriser le djihadiste, lequel a tiré plusieurs fois et a fini par l'égorger. Le colonel Beltrame est mort en héros extraordinaire.
Et votre commandant? Donc c'est Didier dont vous avez parlé la semaine dernière,
Didier,
dans l'émission. Il vous dit, parce que vous en parlez tous les deux avec émotion, il
matin,
vous dit, Beltrame et toi, vous êtes pareils. Vous auriez fait ça, vous ?
Ouais, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai réfléchi toute ma carrière, et oui, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, je le crois intimement. Alors après, on ne peut jamais être sûr tant qu'on n'est pas confronté à la même chose, mais ouais, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que c'est ce que j'ai appris à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, c'est ce que j'ai cultivé toute ma vie, c'est le courage, c'est l'exemplarité, c'est le don de soi, c'est le sacrifice dans sa dimension la plus ultime. Voilà, c'est ce qui fait que vous faites ce métier, c'est ce qui fait que vous êtes prêt à risquer votre vie, pour les autres, pour la France, pour ce en quoi vous croyez. C'est l'esprit du combat, c'est ce qu'on nous apprend à Saint-Cyr. À Saint-Cyr, on nous apprend à ne pas reculer, à nous tenir debout, à demeurer engagé, enthousiaste. Et c'est l'essence même du métier des armes, où on en fait un autre. C'est cette culture du don de soi, du don le plus absolu. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'armée, les armées continuent d'être respectées, écoutées, avec la plus grande attention. Je ne vais pas revenir, ou peut-être le souhaiterez-vous, Yannick, sur la tribune des généraux, mais si elles trouvent une voix aussi puissante, si elles trouvent un écho aussi puissant, c'est qu'ils ont la légitimité de ceux qui risquent leur vie, la légitimité de ceux qui aiment la France plus que tout et qui la voient se déliter, qui voient le désordre, le chaos s'étendre partout. Vous évoquiez tout à l'heure les 6 personnes en situation régulière, les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, elles ne sont quasiment jamais appliquées parce que notre droit l'interdit. Le droit est au service de la société, ce n'est pas la société qui est au service du droit. On a un droit surprotecteur qui va toujours dans le sens de l'humanité et qui altère l'union de notre nation. Moi, il y a quelque chose qui m'importe plus que tout, c'est l'union de notre nation. Moi, je ne veux que rien n'altère l'union de notre nation. C'est notre bien le plus précieux, avec la France que nous allons laisser céder aux générations qui nous suivent. Nous voulons un pays qui soit pacifié, en paix, dans lequel on puisse bien vivre, sans avoir peur, sans craindre. Et cela, on n'obtient pas.
Ah, vous voilà déjà parti en campagne.
Non.
Je vous taquine, mon capitaine. On marque une nouvelle pause musicale. Je rappelle que c'est le capitaine Hervé Moreau qui nous accompagne en cette fin de matinée dans l'émission littéraire de Radion, Wagon Livre. Je rappelle le titre de son ouvrage, Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Je rappelle que notre invité s'est vu infliger un blâme de la part de la ministre des Armées. C'est vous dire tout de même que ce livre n'est pas anodin. L'aspect humain, l'aspect témoignage et aussi ce qu'il dénonce sur l'état de notre société. On se retrouve dans une poignée de minutes, juste après la pause musicale que nous vous proposons.
De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle, qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Qu'il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil, qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué. Et si ça résonne,
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le temps passe très vite en cette fin de matinée sur Radion avec notre invité. Je rappelle que nous avons le plaisir d'avoir en studio à Nitry le capitaine Hervé Moreau qui est venu de Beaune tout spécialement pour présenter, je ne sais pas s'il a besoin de défendre son livre, en tout cas il mérite un véritable coup de projecteur. L'ouvrage a pour titre « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » et je rappelle que si vous ne le trouvez pas dans les points de vente habituels, librairies ou centres culturels ou grandes surfaces, vous pouvez bien évidemment vous procurer l'ouvrage de notre invité sur son site internet lalibrairieducapitaine.com.
Oui, lalibrairieducapitaine.com, tout attaché, absolument Yannick. Et qu'ils n'hésitent pas à demander à leur libraire de prendre contact avec moi.
Voilà, et bien évidemment vous aurez une vision encore plus complète que ce qu'offre l'émission. On parle des hommes politiques. Oui. Alors, les hommes politiques, attention, là aussi vous n'avez pas que des amis. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis, mon capitaine, tout de même.
Lorsque vous êtes partisan de la vérité, oui, vous heurtez quelques sensibilités, c'est vrai, mais nous en avons tellement besoin.
Alors, vous écrivez, en parlant des hommes politiques français, hein, qu'ont-ils fait de cette France qu'on nous avait laissée si belle et si brillante et qui n'est plus que l'ombre d'elle-même ? Vous écrivez encore, vous parlez de la lâcheté ordinaire de nos gouvernants. Et puis, vous écrivez, page 245, « Nous sommes nombreux à penser que ceux qui nous représentent ne sont pour partie hypocrisie, carriérisme et immobilisme. Ils sont animés de préoccupations personnelles et ne font pas preuve de ce courage pourtant si nécessaire alors que tout nous appelle au changement. »
C'est exactement cela et je n'en renie aucun mot, aucune ligne. Il suffit de considérer l'état du pays, un pays désuni, un pays communautarisé, un pays de la violence, de la loi du plus fort, pour se dire que ceux qui gouvernaient, quels qu'ils soient, ceux qui ont été en charge du pouvoir et de faire évoluer la chose dans le sens qui a été si nécessaire, ne l'ont pas fait. Ce sont des gens qui ont failli, qui ont peut-être privilégié davantage leur intérêt personnel que l'intérêt du pays lui-même. On devrait trouver au sein des instances politiques la vertu, le sens de l'intérêt général, le bien commun, et on le trouve si peu. Les choses ne vont pas.
D'ailleurs, vous ne cachez pas du tout vos ambitions politiques. En 2022, vous serez candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de Beaune.
C'est la 5e circonscription de Côte d'Or, celle de Beaune. Oui, exactement, Yannick, absolument. J'ai passé 4 années à protéger mes concitoyens, les concitoyens de cet arrondissement, et j'espère qu'ils voudront et ils accepteront, ils décideront que je devienne leur député. Le choix leur appartient. Moi, je me suis présenté à eux, ils me connaissent pour beaucoup d'entre eux, ils me découvriront encore plus, encore mieux, et j'espère qu'ils me feront confiance pour être l'un de ces députés, l'un de leurs représentants qui portera tout ce qui est nécessaire pour que nous ayons une société plus belle, plus enviable, plus sereine, plus équilibrée.
Et même si la formule paraît triviale, je la partage avec nos auditrices et auditeurs, vous écrivez, il faudrait que ceux qui ont des couilles fassent de la politique.
Ça fait référence à ce que me disait à un moment donné, sur quelle intervention il s'agissait, mais un de mes sous-officiers me dit, un des gendarmes qui sert sous mes ordres, mon capitaine, il faudrait que les politiques aient des couilles. Et je lui réponds, je lui objecte avec le cœur et avant la raison, non, il faudrait surtout que ceux qui ont des couilles fassent de la politique. Parce que c'est ça dont on a besoin de courage. Et
sans
de résolution.
Transition aucune, je cite le général de Gaulle.
Oui.
La meilleure école du commandement est la culture générale.
Oui.
J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que vous aussi, vous êtes attaché au savoir. C'est la fou. Lecture, on se forge, c'est on fou. Devient un adulte en allant découvrir les grands écrivains français. Oui. Alors vous imaginez, forcément, votre discours trouve un écho chez moi bienveillant, plus que ça. Et vous, mon capitaine, vous parlez des lectures de votre enfance,
oui.
En Nouvelle-Calédonie, oui. Un certain temps,
oui.
Lisait des choses très variées, finalement.
Oui, très très variées, alors effectivement, en fonction des âges, mais alors après, les tentations étaient moindres qu'aujourd'hui, on n'avait pas une trentaine de chaînes de télévision, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les smartphones,
il n'y avait pas Facebook,
il n'y avait rien. Pas grand chose, il y avait les livres et les livres ont été extraordinaires dans ma vie, dans mon cheminement. Moi je prenais les bibliothèques roses et vertes de mes sœurs aînées, je lisais Le Clan des Cinq, Le Club des Sept ou l'inverse.
La Comtesse de Ségur,
Alice,
et puis Caroline et ses amis, Martine bien sûr, voilà. Et puis plus tard donc
plus grand, hein, vous vous tournez vers Jules Verne, Zola, Hugo, Dumas, Balzac.
Et quand même très très vite, y compris le grand Charles de Gaulle. Moi, c'est en lisant les œuvres de Gaulle à l'âge de 10 ans que voilà, j'ai découvert le grand Charles de Gaulle et que j'ai voulu faire la même école que lui.
J'ai lu
Les Mémoires de guerre, Le fil de l'épée et le reste.
Ouvert l'armée de métier,
je l'ai lu.
Ah bon.
Et très très vite, très très tôt, j'ai lu les grands auteurs. Et c'était extraordinaire parce que vous aviez un imaginaire d'enfant dans lequel vous ne vous transposiez pas dans le monde des adultes, mais toutes les cours d'Europe vous apparaissaient, toutes les problématiques adultes vous apparaissaient, et j'en ai été nourri très jeune et j'ai aimé très jeune. Et ça, c'est extraordinaire parce que lorsque l'on s'intéresse, lorsque l'on apprend, lorsque l'on comprend, lorsqu'on fait cet effort intellectuel, certes, et qu'on y prend plaisir, parce que la lecture est un plaisir immense, voilà, ça contribue à faire de vous l'homme ou la femme que vous êtes.
Et vous avez écrit ce livre.
Oui.
Vous adorez l'empereur Napoléon. Je lis juste le passage, je ne vous demande pas de commenter, mon capitaine, c'est pour nos auditrices et auditeurs, je partage cela avec eux. Vous écrivez « Je me plais à croire que si j'avais servi sous l'Empire, j'aurais été général avant mes 25 ans. Jamais la France, maîtresse de l'Europe, n'avait connu période aussi brillante et glorieuse. Une époque où les généraux chargeaient à la tête des armées et ne demeurait pas planqué au sein des lignes arrières. » Sans commentaire, c'est page 292. Maintenant, je voudrais, puisque l'émission...
Je me permets de préciser, j'aurais été général avant mes 25 ans et mort avant mes 30 ans.
Sans doute. Oui. Mais bon. Hervé Moreau, êtes-vous épicurien ?
Oui, je suis épicurien et je crois qu'il le faut parce qu'on est dans une région absolument sublime. Je raconte dans le livre bien des choses, le monde
paysan.
Alors
votre région, attention, pour nos auditeurs de Lyon, oui, c'est vous la Côte d'Or.
C'est la Côte d'Or, mais je commence à très très bien connaître l'ensemble de la Bourgogne. Je me déplace souvent. Voilà, on est dans une région extraordinaire de terroirs, de traditions, et je le raconte dans le livre au regard de tout ce que peut représenter le vin, bien sûr, en Côte d'Or et sur la route des Grands Crus, ce que peut représenter le Clos de Vougeot. Beaucoup de mes lecteurs m'ont dit, dans les périodes de confinement, ils ont voyagé grâce à moi, ils ont ressenti tellement d'émotions lorsque je leur ai fait partager l'amour de la Bourgogne, nos grandes villes, nos terroirs, notre restauration, notre gastronomie, nos vins. Voilà, c'est une ouverture sur autre chose. C'est une ouverture aussi sur le monde paysan qui est tellement admirable. Moi, je suis un des grands défenseurs de ce monde paysan. Je le respecte énormément, je l'admire. Ils sont tellement courageux. Et on les défend aussi, hélas, si peu.
Là aussi, effectivement, oui, on sent que vous avez une véritable admiration. Hein. Ce n'est pas que de la sympathie,
non,
c'est de l'admiration
pour
ces viticulteurs qui travaillent dans des conditions difficiles.
Oui,
hein,
oui.
Ils ont un courage immense.
Mais là encore...
Le capitaine face aux gens pêcheurs.
Oui,
aussi,
oui, hein. Le capitaine de gendarmerie est au plus près des personnes, du genre humain, des gens. Moi, je les ai vus, comme je l'ai dit dans le livre, là encore, suer, transpirer en été, avoir froid en hiver. Moi, je suis un homme de terrain. Voilà, moi, j'évolue au milieu des gens, des personnes. C'est comme ça que vous les comprenez. C'est en étant au plus près d'eux, en connaissant, en approchant leurs existences le plus près possible. Moi, j'ai été confronté à des scènes dramatiques en termes de suicide, bien entendu, au sein du monde paysan. La désespérance quand la gelée, la grêle font des dégâts dramatiques, le travail de toute une année s'évanouit en une matinée de gel. J'ai bien sûr été à l'origine de la protection des vignes sur l'arrondissement de Beaune. Quand vous avez affaire à eux, qui ont subi des atteintes aux biens, qui ont vu leur raisin coupé. Voilà, le raisin, c'est leur sang, c'est leur âme, c'est leur travail, c'est leur passion. Et vous comprenez tout cela lorsque vous évoluez au plus près d'eux. Vous êtes sensible à toutes les problématiques, tous les espoirs, toutes les souffrances qui sont les leurs.
Mon capitaine, permettez-moi de vous remercier. Nous sommes au terme de cette émission.
Merci,
je rappelle, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. C'est un
merci
grand
beaucoup.
Plaisir.
C'est super.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, avec ce sous-titre largement évocateur, Un officier d'active rompt le devoir de réserve. Je rappelle que le livre, alors, un grand nombre de magasins, un peu partout en France, en possède des exemplaires à la vente. Et je rappelle que on est dans un monde tellement moderne que finalement, vous passez par Internet.
Librairiedecapitaine.com, tout attaché.
Et vous commandez le livre du capitaine Hervé Moreau. Vous aurez bien sûr beaucoup plus approfondi, ce qui n'a été qu'une ébauche du contenu de ce livre, mais la réflexion peut être prolongée par la lecture. Et puis je terminerai avec un extrait de votre livre, mon capitaine, ce sera le mot de la fin. Je trouve qu'il est plein justement de cette philosophie épicurienne et de cette sagesse que j'ai cru très largement déceler en vous. Profitez de chaque instant et surtout, veillez à n'en rien perdre. Se consacrer à l'essentiel, à ceux que l'on aime et à ceux qui nous aiment, et ne pas se perdre dans tout le reste, dans le secondaire.
tout peut s'arrêter si brutalement. La mort emporte tout, sauf l'amour que l'on continue de vouer à ceux qui sont partis, à ceux qui ne sont plus là, mais que l'on continue de porter en nous, en nos cœurs, en nos âmes et en nos consciences. Encore un grand merci, capitaine, mon capitaine, je vous prie de m'excuser. Je salue et remercie toutes les auditrices et tous les auditeurs de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Merci à notre directeur pour les prises photos et sons. Et merci de votre fidélité. L'émission est disponible en podcast sur yannickpetit.fr. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir.
Merci de m'avoir reçu.